VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier, Anne Robertson, au sommaire en ce vendredi 14 août 2015.
En République démocratique du Congo, le ministère public a requis la prison à perpétuité dans le procès en appel de 5 policiers accusés de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya.
Au terme de près de 4 heures de réquisitoire, le ministère public a requis la perpétuité à l'égard du colonel Daniel Mukalai et 4 autres prévenus.
Cyril Milondou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ban Ki-moon a rappelé jeudi au chef des missions de maintien de la paix la tolérance zéro des Nations Unies en ce qui concerne les abus sexuels.
Le silence des radios alimente les rumeurs au Burundi.
Human Rights Watch a indiqué que les rumeurs et la violence alimentent l'incertitude au Burundi. Cette organisation affirme aussi que la suppression des médias indépendants est aussi préoccupante que la violence qui s'empare du pays des mille et une collines.
Christophe Nkurunziza reviendra sur la situation des médias au Burundi.
Et aux États-Unis, la Cour suprême du Connecticut a décrété que la peine de mort était désormais anticonstitutionnelle dans cet État, car elle constitue un châtiment cruel et exceptionnel.
Pour commencer, le journal.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé jeudi au chef des missions de maintien de la paix la tolérance zéro de l'organisation en ce qui concerne les abus sexuels. Il faisait allusion aux nouvelles allégations d'abus sexuels par des casques bleus en République centrafricaine.
Monsieur Ban s'est réuni jeudi avec les chefs de mission de l'ONU, les commandants des forces et les commissaires de police pour discuter de ce sujet. Il a souligné que la tolérance zéro signifie zéro complaisance et impunité zéro et que lorsque des allégations sont fondées, l'ensemble du personnel, qu'il s'agisse de militaires, de policiers ou de civils, doivent rendre des comptes, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.
République démocratique du Congo avec le procès en appel sur l'assassinat du défenseur des droits humains Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Le ministère public a requis jeudi la prison à perpétuité. Il a tenté de démontrer lors d'un long réquisitoire que les 5 prévenus auraient agi comme une véritable bande pour organiser ce double assassinat en 2010. Fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya avait été retrouvé mort le 2 juin 2010 après avoir été convoqué au siège de l'inspection générale de la police pour y rencontrer le général John Numbi, qui était alors chef de la police. Le point avec Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au terme de près de 4 heures de réquisitoire, le ministère public a requis la perpétuité à l'égard du colonel Daniel Mukalai et 4 autres prévenus. Ce réquisitoire est salué par les parties civiles. Maître Richard Bondou.
Ce réquisitoire répond aux attentes des parties civiles qui ont protesté contre la peine de mort pour ne pas salir les immaculés du sang toxique des criminels.
Du côté de la défense du colonel Daniel Mukalai, on qualifie ces réquisitoires de trop durs. Maître Bokata Ikundaka mise sur l'intime conviction des juges.
On peut parler de lourdeur et de réquisitoires extrêmement durs.
Les parties civiles se retrouvent sans moyens financiers. L'argent alloué par des ONG, soit $19,000, une partie a été empruntée pour le paiement des loyers du barreau national. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée aux efforts pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a estimé que la fin de cette épidémie était possible si les efforts se poursuivent avec l'intensité actuelle. Il n'y a plus de nouveaux cas au Libéria. La Guinée et la Sierra Leone ont signalé seulement 3 cas lors de chacune des 2 dernières semaines, soit les chiffres les plus faibles depuis plus d'un an, a dit le docteur Margaret Chan, cité par le Centre d'actualité de l'ONU.
Cela représente une différence énorme par rapport à la situation il y a moins d'un an. Je peux vous assurer que les progrès sont réels et qu'ils ont été durement gagnés, a-t-elle ajouté. Selon le Dr Chan, si l'intensité actuelle en matière de détection de cas et de recherche des contacts est maintenue, le virus pourrait être vaincu d'ici à la fin de cette année. Cela veut dire arriver à zéro et rester à zéro cas d'Ebola, a-t-elle dit.
En Mauritanie, le Parlement a adopté une nouvelle loi durcissant la répression de l'esclavage, désormais considéré comme un crime contre l'humanité, et doublant les peines contre ses auteurs. Le point avec Salwa Jafari.
C'est une nouvelle mouture de la loi anti-esclavage de 2007. Le nouveau texte adopté par l'Assemblée nationale criminalise 10 autres formes d'esclavage et double les peines contre leurs auteurs. Parmi ces nouvelles formes incriminées, le mariage forcé d'une femme considérée comme esclave, moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, sa cession à une tierce personne ou sa transmission par succession à la mort de son mari à une autre personne. Les peines maximales encourues pour ces pratiques passent à 20 ans de prison dans la nouvelle loi, assortie d'amendes contre 5 à 10 ans de détention auparavant. La loi permet aussi un dédommagement des victimes. Selon l'association australienne Walk Free, il y aurait près de 155 000 esclaves en Mauritanie, ce qui constitue 4% de la population.
Le président de Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a renvoyé mercredi soir le gouvernement sur fond de vives tensions avec le Premier ministre. Il peut confier la gestion du pays à une nouvelle équipe dans l'attente de nouvelles élections législatives organisées dans les 90 jours qui suivent.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis pensent que le groupe État islamique a probablement eu recours à du gaz moutarde dans une attaque contre les forces kurdes cette semaine en Irak. C'est ce que rapportait jeudi le Wall Street Journal, précisant que ce serait la première fois que les insurgés islamistes se retrouveraient en possession d'armes chimiques interdites.
Et la milice pourrait avoir mis la main sur ce gaz moutarde en Syrie ou encore en Irak, ajoute le Wall Street Journal. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été exonéré hier des accusations d'agression sexuelle portées contre lui en Suède. Mais voilà, il est loin d'être tiré d'affaire, car il est toujours visé par une plainte pour viol. Jean-Roger Bion.
La procureure en charge du dossier s'est dite dans un communiqué obligée de classer sans suite une partie de l'enquête. La raison du non-lieu sur les accusations d'agression sexuelle découle du délai de prescription de 5 ans écoulé depuis les faits dénoncés par une Suédoise alors âgée d'une trentaine d'années. Cette prescription ne devrait rien changer pour Julian Assange, aujourd'hui âgé de 44 ans et réfugié depuis plus de 3 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres pour échapper à un mandat d'arrêt européen émis par la Suède suite à la publication de documents secrets sur le site Wikileaks. Une autre plaignante suédoise est en effet en ligne de mire et la prescription concernant ce nouveau cas n'interviendra qu'en août 2020, ce qui laisse encore 5 ans à la police britannique pour interpeller Julian Assange. La suite de la procédure d'ici à 2020 est très incertaine, même si la procureure s'est dite déterminée à la mener à bien.
Le Parlement grec doit voter aujourd'hui son feu vert au plan d'aide des pays alliés. À noter que le Fonds monétaire international attend que les Européens prennent des décisions sur l'allègement de la dette grecque avant de décider de participer ou non au nouveau renflouement du pays. C'est ce qu'a déclaré la chef de la mission du Fonds à Athènes dans un communiqué. Cette déclaration est intervenue au moment où le Parlement grec doit approuver un accord sur un nouveau plan d'aide de 85 milliards d'euros. Le troisième depuis 2010, en contrepartie de mesures d'économie drastiques. De nombreux pays européens, l'Allemagne en tête, exigent la participation du FMI au plan d'aide, mais se montrent extrêmement réticents à l'idée d'alléger la dette grecque qui avoisine les 170% de sa richesse nationale.
La Banque centrale chinoise a légèrement relevé vendredi son taux de référence du yuan face au dollar, inversant la tendance après les 3 dévaluations successives des jours précédents. Celles-ci ont suscité de vives réactions des marchés financiers. Et puis la Cour suprême du Connecticut a décrété dans un arrêt rendu jeudi que la peine de mort était désormais anticonstitutionnelle dans cet État, car elle constitue un châtiment cruel et exceptionnel. Quelques heures auparavant, le Texas avait procédé à sa 10e exécution depuis le début de l'année.
La peine capitale reste en vigueur dans 31 des 50 États, tandis que 19 l'ont abolie. Le Connecticut compte encore 11 condamnés emprisonnés dans le couloir de la mort pour des crimes commis avant 2012, selon les chiffres fournis par le Centre d'information sur la peine de mort.
On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement reste l'institution financière la mieux notée du continent par l'agence Fitch Ratings. Celle-ci vient de confirmer les 3A attribués à la BAD avec des perspectives stables, indique Jeune Afrique. Dans son évaluation, l'agence met l'accent sur le soutien solide des actionnaires de la banque, sa bonne capitalisation et une gestion prudente du risque. Une mission d'affaires sud-africaine conduite par le vice-ministre sud-africain du commerce et de l'industrie se rendra au Nigeria et au Ghana du 17 au 21 août, rapporte l'APA. L'objectif est d'accroître le commerce et les investissements avec ces deux pays, essentiellement dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie et des mines. Le Cameroun vient de se doter de deux nouveaux acropoles pour la production, la transformation et la commercialisation de pommes de terre et d'ananas à Mbouda et Nloé. D'un investissement de près de 3 milliards de francs CFA, le projet de Mbouda permettra de passer d'environ 15 000 tonnes de pommes de terre à quelque 47 000 tonnes dès l'année prochaine, selon le ministère de l'Économie. Et le gouvernement burkinabé va investir plus de 24 milliards de francs CFA dans le réseau routier de Ouagadougou avec un soutien financier de près de 19 milliards de francs CFA de la Banque Ouest-Africaine de Développement, rapporte le site d'info en ligne Westaf News.
Et maintenant les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Un coup de tonnerre dans la sélection brésilienne de football.
Thiago Silva, défenseur central du Paris Saint-Germain et ex-capitaine du Brésil, n'a pas été convoqué par le sélectionneur Dunga pour les deux prochains matchs amicaux de la Seleção. Pour ces deux derniers matchs amicaux, avant d'entamer la campagne de qualification au Mondial 2018, le Brésil affrontera aux États-Unis le Costa Rica le 5 septembre à New Jersey et le 8 les États-Unis à Boston. Thiago Silva, déjà déchu de son brassard après la Coupe du Monde catastrophique de 2014, puis de sa place de titulaire au profit de Miranda, il a cette fois été carrément éjecté du groupe après la Copa América achevée sur une piteuse élimination dès les quarts de finale. Quant à l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, Hulk, il fait son retour en sélection, lui qui n'avait pas été convoqué pour la Copa, tout comme le revenant Lucas.
Jeux Olympiques 2024, l'Amérique y pense toujours.
Le comité olympique américain s'attend à ce que Los Angeles fasse officiellement acte de candidature à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 après le retrait de Boston le mois dernier. On se souvient que Los Angeles avait déjà organisé les Jeux Olympiques d'été à deux reprises, en 1932 et en 1984.
Tennis avec le tournoi de Montréal.
Le numéro 3 mondial Andy Murray s'est qualifié sans difficulté pour les quarts de finale du Masters de Montréal en battant en 1h05 le luxembourgeois Gilles Muller 6-3, 6-2.
Tennis toujours, Nick Kyrgios se distingue une nouvelle fois et pour de mauvaises raisons.
Oui, l'Australien a écopé hier d'une amende de l'ATP après avoir tenu des propos insultants à l'égard du Suisse Stan Wawrinka lors de ce même Masters de Montréal. L'ATP a réagi à cet incident survenu à la fin du premier set du deuxième tour entre Wawrinka et Kyrgios. L'Australien avait marmonné des propos très crus accusant la petite amie du Suisse d'avoir eu une relation avec un autre joueur du circuit. Sur le moment, le cinquième joueur mondial n'a pas entendu ses propos, mais ceux-ci captés par les micros de la télévision lui ont été rapportés après la rencontre.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grosdidier, pour vous présenter les dossiers du jour, eh bien, quelle est la dernière rumeur que vous avez entendue ? Cette question est devenue assez courante au Burundi et plus particulièrement dans la capitale Bujumbura. En effet, les principales radios indépendantes ont été réduites au silence depuis 3 mois déjà. Et les gens se rabattent alors sur les médias sociaux tels que Facebook, WhatsApp et Telegram pour s'échanger les dernières nouvelles d'une situation qui reste volatile. Le procureur général de la République affirme que des enquêtes sont en cours, mais voilà, les gestionnaires des radios privées disent que rien n'est fait pour que celles-ci rouvrent leurs portes. Je vous propose de suivre un reportage de Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Près de l'église Saint-Michel, dans son bureau au 6 à l'avenue de la Mission, Belise Canez, à la trentaine, a les yeux rivés sur l'écran de son smartphone. Côté d'elle, une radio de type Sony est laissée à elle-même. Sa radio publique africaine préférée, RPA en sigle, n'émet plus depuis 3 mois. À la place, elle se concentre désormais sur les médias sociaux, tels Facebook, heure après heure. À la quête d'une information vérifiée, Belise Canez.
Chaque minute, je dois être informée pour savoir quoi faire. S'il y a des problèmes, vous savez, ici à l'insécurité, on n'est pas sûr du lendemain. Je dois suivre toutes les informations avant que les radios ne ferment. J'avais une radio que je préférais beaucoup, la RPA. Maintenant, je fais un peu de confiance à la Voix d'Amérique, mais surtout à certains sites Facebook. Des fois, il y a des sites de menteurs, de propagandistes, d'extrémistes, mais il y en a qui sont fiables. Je dois consulter toutes les 3 heures.
Eline Nduy, 45 ans, habite les collines surplombant la capitale. Depuis plus de 3 mois, il n'écoute que la radio-télévision nationale qui, elle, émet sur toute l'étendue du territoire.
Les informations que nous suivons normalement passent principalement sur la radio nationale et la télévision nationale. Que ce soit crédible ou pas, on est obligé de suivre cette information parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous suivons aussi la radio France Internationale ou même la radio Voix d'Amérique. On pourrait demander aux autorités de réouvrir les radios et les télévisions qui ont été fermées.
Le rédacteur en chef de la radio Bonécha, aucune enquête n'a jamais été menée dans les faits, même si le chef de la cellule communication à la présidence de la République attend les conclusions des services habilités, Léon Massengo.
Nous avons déjà approché le procureur général de la République. Nous avons saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et visiblement, on constate qu'eux-mêmes ne sont pas à mesure de trouver une solution ou de répondre à notre demande et de reprendre nos activités. C'est déplorable. C'est vraiment dommage que l'on puisse passer 3 mois sans avoir accès à nos sites et sans pouvoir reprendre nos activités. Nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se fait en termes d'enquête. Nous n'avons jamais été approchés par ces gens.
Human Rights Watch a indiqué que les rumeurs et la violence alimentent l'incertitude au Burundi. Cette organisation affirme aussi que la suppression des médias indépendants est aussi préoccupante que la violence qui s'empare du pays des mille et une collines. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, certains pères de famille se créent des boulots pour scolariser et nourrir leurs enfants. Alors, ils puisent l'eau du lac Kivu qu'ils transportent sur des vélos pour aller la revendre dans les quartiers les moins desservis par la régie de distribution et de traitement d'eau du Nord Kivu. Un travail qui rapporte par jour environ 10 dollars américains, de quoi faire vivre une famille à Goma, signale notre correspondant Charlie Kasereka.
Par jour, je fais 6 à 7 tours et cela me rapporte une affaire de 7 000 ou 6 000 et équivaut à 7 dollars ou à 8 dollars par jour.
Ils sont autour des 400 cyclistes et vendeurs d'eau dans la ville de Goma. Jeune homme comme aussi des pères de famille, ils pratiquent ces métiers. Monsieur Nyangi Gentil, la vingtaine pédagogue de formation, a jugé bon d'abandonner la carrière d'enseignant faute d'un salaire insignifiant et s'est jeté dans la vente d'eau ambulatoire en vélo. Nous l'avons rencontré au milieu d'une centaine de ses collègues de service à la fameuse plage du peuple de Goma alors qu'il vient tout juste d'attacher ses 10 bidons d'eau de 20 litres chacun sur son vélo. Pourquoi a-t-il abandonné l'enseignement et choisir de pousser les vélos? Il nous l'explique ici.
Je ne serai pas seulement devant les enfants en train de les enseigner. Quand je n'ai rien mangé, ça sera tellement bizarre. Alors je jugeais bon d'abord de puiser de l'eau momentanément en attendant comment je vais toujours rentrer à l'école parce que j'adore l'enseignement. Mais grâce à la vente de l'eau, je peux même trouver soit $5 par jour, soit même le double quand il y a la clientèle.
Rien ne sert à se compliquer la vie pour se lancer dans ces métiers. Juste un vélo, quelques bidons en plastique, une corde pour attacher, accompagné bien sûr d'une très bonne dose de courage suffisent. Maman Louise, déjà 3 ans d'expérience dans ces métiers, elle est l'unique femme de Goma à avoir eu le courage de se lancer. Elle pousse son vélo sur lequel 10 bidons d'eau sont attachés.
Sans rien faire à la maison, mes enfants étaient affamés. Du coup, quand mon mari gardait un vélo dans notre maison, je me suis dit que je pouvais aller puiser de l'eau et venir la revendre ici dans mon quartier, comme les robinets ne sont pas toujours alimentés. Ce travail maintenant m'aide à nourrir et scolariser mes enfants quand mon mari n'a rien trouvé. Actuellement, je n'ai plus la même force avec laquelle j'ai débuté. C'est un travail fatigant, surtout pour une femme que je suis. Par jour, je réalise 3 à 4 tours avec mes 10 bidons.
Joël, mère de 10 enfants, habite le quartier Majengo grâce au service des vendeurs ambulants. Elle ne fait plus de kilomètres pour ramener ses liquides dans son foyer.
J'ai 10 enfants. Au lieu de les envoyer à l'épuisée ou lac, avec tous les risques en cours de route, et même ils peuvent se noyer, je m'approvisionne auprès des vendeurs ambulants à 500 francs congolais. L'eau n'arrive pas à nos robinets. Malgré la qualité de leurs produits qui est douteuse, je n'ai pas vraiment le choix.
Même les centres de santé cliniques recourent aussi au service de ces vendeurs d'eau à la criée. Docteur Eston dirige une clinique sanitaire dans les quartiers Mabanga Nord, ici à Goma.
Notre clinique a la capacité de 34 lits dehors du personnel soignant. Justement, nous avons un problème d'approvisionnement en eau. Et le centre a besoin de l'eau pour les toilettes, pour ne pas contaminer aussi nos malades avec d'autres maladies.
Si l'on peut se réjouir du service rendu par ces vendeurs, il y a lieu de s'interroger sur la qualité de l'eau vendue par ces vendeurs à la criée. Sur ces, à certains coins au bord du lac Kivu, l'on peut croiser certains délégués des ONG qui se chargent de mettre du chlore dans des bidons d'eau puisés directement dans les lacs. Baraka est l'un de ces délégués. Il nous explique son travail ici, à la plage du peuple.
Comme c'est dans la saison sèche, nous arrivons à une 2070 individus qui viennent tout juste au fait puiser de l'eau ici et que nous essayons tout de suite de les servir à un produit chlore actif liquide.
L'institution publique chargée du traitement et de la distribution d'eau potable à Goma sert seulement 24/24 les quartiers jugés stratégiques. Deo Kabiona Kizibisha et s'insurge contre les services des cyclistes et vendeurs d'eau.
Logiquement, ces gens-là devraient venir puiser l'eau traitée de la région des eaux, mais il faut savoir que parmi eux, il y a des inciviques qui partent directement au lac puiser l'eau brute, l'eau qui n'est pas traitée, et ces gens-là vont vendre aux paisibles citoyens sans pour autant leur dire la vérité.
Charlie Kasserika, Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au micro, Camille Grosdidier, au Cameroun, les autorités ont fermé les locaux de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Selon le Conseil national de la communication, les journalistes n'auraient pas respecté les mesures de suspension de 6 mois prises à l'encontre de 2 journalistes de la chaîne. On écoute les explications d'Albert Patrick Eya, directeur de l'information.
Le Conseil national de la communication, au mois de février dernier, a commencé à nous créer des problèmes, indiquant que le travail que fait Afrique Média posait des problèmes par rapport à la diplomatie camerounaise, qu'on attaquait les pays étrangers et les autorités étrangères. Ils estimaient que donc ce travail-là n'était pas bien. Et c'est pour cela que le 4 juin, ils ont donc pris une sanction à l'encontre d'Afrique Média.
Et une sanction que vous n'avez pas respectée?
C'est une sanction qu'on ne pouvait pas respecter parce que nous avons estimé qu'elle était disproportionnée elle était démesurée dans la mesure où la faute de non-encadrement des panélistes est une faute qui n'est pas une faute directe professionnelle pour un journaliste. Il s'agit des invités sur un plateau, mais le CNC, pour la même faute, a sanctionné les journalistes en question pour 6 mois de suspension, a sanctionné les deux émissions que sont le débat panafricain et le mérite panafricain. Et en plus de cela, le CNC demande que toute l'entreprise Afrique Média puisse fermer les portes pendant 1 mois. Nous avons trouvé que c'était un peu excessif et c'est pour cela que nous avons contesté cette sanction en saisissant non seulement la justice, mais aussi en essayant de nous opposer nous-mêmes à cette sanction que nous n'avons pas trouvée juste du tout.
Et du coup, vous vous mettez hors la loi, hein?
Oui, ce n'est pas une manière d'être hors la loi. Je pense que la loi doit être respectée par tout le monde. Lorsque vous jouez un rôle qui est celui du CNC et que vous avez le devoir de régulation, vous-même, vous devez prêcher par l'exemple.
Vous n'avez pas le soutien de toute la presse camerounaise. Kinin Somm, par exemple, de l'Association des journalistes de la presse anglophone, affirme que vous auriez dû respecter cette suspension.
Oui, c'est un avis personnel de M. Kinin Somm que je respecte beaucoup. Mais je pense que prendre la chose comme telle, ce n'est pas considérer le problème dans son fond. Il s'agit d'un problème de fond.
Albert Patrick Eya, directeur de l'information d'Afrique Média. Il était joint à Yaoundé par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Généralisation de l'enseignement du mandarin dans les écoles d'Afrique du Sud. Le lancement des cours de mandarin, la langue la plus répandue en Chine, fait partie d'un accord ambitieux sur l'éducation entre l'Afrique du Sud et la première économie d'Asie. Celui-ci permettra à la Chine de former des centaines de professeurs sud-africains. Les syndicats de l'enseignement protestent contre cette mesure. Nicolas Pinault a joint le professeur André Thomas Hossen à Pretoria.
Ce n'est pas une obligation, ce ne sera pas une langue étrangère obligatoire. Je pense que c'est un développement assez naturel. La coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud est très très forte depuis une bonne dizaine d'années. Aussi dans le contexte de l'alliance des pays BRICS, Brésil, Russe, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ce moment-ci, nous avons par exemple les plus grandes banques avec une participation très très forte chinoise. Nous avons peut-être 600 000 citoyens chinois qui vivent et qui travaillent en Afrique du Sud. Et la Chine est le second plus important partenaire dans le commerce extérieur de l'Afrique du Sud. Or, c'est naturel que les gens aient un intérêt d'apprendre le mandarin. Et je pense que du côté de la politique de l'éducation, les politiciens et les experts se sont dit que ça allait bénéficier généralement le niveau d'éducation pour que les enfants apprennent une langue étrangère qui, d'ailleurs, est une langue compliquée.
Les syndicats sud-africains de l'enseignement, notamment la SATU, dénoncent un nouveau colonialisme.
Bon, oui, évidemment, les syndicats des professeurs ne seront pas trop heureux parce qu'il n'y aura pas de citoyens sud-africains, de professeurs sud-africains qui aient un domaine suffisant du mandarin pour pouvoir offrir ces leçons. Ce seront des Chinois, des professeurs chinois qui devront venir en Afrique du Sud pour offrir les classes. Et c'est naturel que le syndicat s'y oppose un peu. Et la Chine, jusqu'à présent, a investi au moins 200 milliards de dollars directement en Afrique, dans les infrastructures, dans la reconstruction des infrastructures. En fait, c'est un peu faux de dire que c'est un nouveau colonialisme. D'ailleurs, la Chine n'a jamais essayé d'imposer une politique en Afrique. Elle ne s'est jamais mêlée dans les affaires politiques, dans les affaires d'État, en Afrique, n'importe où.
Les syndicats sud-africains de l'enseignement demandent au contraire de mettre l'accent sur les langues africaines. Est-ce le cas dans les écoles sud-africaines ?
L'Afrique du Sud est un des peu pays en Afrique qui a décidé de renforcer les langues traditionnelles africaines. Avec la constitution de 1994, c'est très souvent qu'il nous arrive maintenant des élèves de baccalauréat qui ne parlent pas l'anglais. C'était, de mon point de vue, une décision très courageuse et peut-être un peu trop courageuse parce que tout le reste de l'Afrique a décidé à l'envers. Alors, le mandarin, oui, c'est peut-être pas aussi global comme langue que l'anglais, mais avec la très très grande puissance de la Chine, il y a une certaine logique d'offrir au moins l'opportunité d'apprendre le mandarin.
Le professeur André Thomas Hossen, qui était joint à Pretoria. Voilà, ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Robertson, au micro Camille Gros-Didier. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook ou encore notre site internet voafrique.com. Et entre-temps, une très bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.